Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 13 août 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Les faillites d'entreprises ont atteint un niveau record en juillet en Allemagne. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, l'Iran n'a jamais abandonné la diplomatie ni la table des négociations, insiste le chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdollahian. Attaque terroriste contre un bus de l'armée syrienne à Deir ez-Zor, Téhéran et Damas condamnent vivement. Et puis l'Arabie saoudite nomme un ambassadeur non-résident pour les territoires palestiniens occupés. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la République islamique n'avait jamais quitté la table des négociations et qu'au Téhéran poursuivrait ses efforts pour la levée des sanctions anti-iraniennes. Hossein Amir Abdollahian a déclaré que l'administration du président Ibrahim Raisi s'est concentrée sur une diplomatie dynamique pour répondre aux intérêts nationaux depuis son entrée en fonction en août 2021. Les remarques sont intervenues après que le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé le processus en cours de déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens qui ont détenu illégalement en Corée du Sud en raison des sanctions américaines extraterritoriales. Il a ajouté qu'un certain nombre d'Iraniens qui ont été détenus aux États-Unis sur des accusations sans fondement seront également bientôt libérés. Samedi, le chef de la banque centrale iranienne a déclaré que tous les fonds gelés de l'Iran en Corée du Sud avaient été débloqués et seraient utilisés pour des marchandises non sanctionnées. Attaque terroriste contre un bus de l'armée syrienne à Deir ez-Zor, Téhéran et Damas condamnent vivement. Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'attaque terroriste contre les forces de l'armée syrienne à Deir ez-Zor dans l'Est. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné l'attaque terroriste de Daesh contre les forces de l'armée syrienne à Deir ez-Zor, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les soldats syriens. Il a déclaré que l'escalade des attaques et des actes terroristes en Syrie ces derniers mois résultait de la continuité de l'aide en tout genre, renseignement, sécurité, logistique, fournie aux terroristes pour empêcher justement que reviennent dans le pays la sécurité et la stabilité. Kanani a ajouté que l'aide à la survie et aux opérations des terroristes de Daesh en Syrie et coordonnée et intégrée avec les attaques de l'entité sioniste contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays. Ce qui prouve clairement qu'il y a là derrière un objectif commun réel. La Syrie a également fermement condamné les États-Unis pour une attaque meurtrière menée par des résidus du groupe terroriste Daesh contre un bus militaire syrien dans la province de Deir ez-Zor, attaque ayant tué au moins 33 soldats. Le ministère syrien des Affaires étrangères a estimé que cette agression criminelle de terroristes s'inscrit dans le cadre de l'escalade américaine contre la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. La première réunion de la commission conjointe de coopération entre la République islamique d'Iran et la République du Yémen s'est tenue dimanche 13 août à Téhéran. Le vice-président iranien et directeur de l'organisation iranienne de l'administration et du recrutement, Meissam Latifi, en tant que responsable de la commission conjointe Iran-Yémen, et l'ambassadeur de la République du Yémen en Iran, Ibrahim al-Dailami, ont assisté à cette réunion et ont discuté de la coopération conjointe. Lors de cette réunion, les responsables des deux pays ont exprimé l'espoir que la coopération entre les deux pays se développera. Des relations qui ont été établies dans le passé sont toujours en cours, mais j'espère que nous pourrons gérer les relations de manière cohérente au sein de la Commission, a déclaré M. al-Dailami. L'Arabie saoudite a nommé un ambassadeur non résident pour les territoires palestiniens occupés qui servira également du consul général à Al-Quds. Il s'agit de la première fois que le royaume aura une représentation diplomatique officielle en Palestine. Le rôle sera rempli par l'actuel ambassadeur saoudien en Jordanie. Le dossier des territoires palestiniens est traditionnellement géré par l'ambassade d'Arabie saoudite à Amman, en Jordanie. L'annonce intervient au milieu des spéculations selon lesquelles Riyad et Washington auraient eu des pourparlers sur les conditions saoudiennes de normalisation avec Israël. Enfin, le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a annoncé son intention d'envoyer une commission parlementaire au Niger pour rencontrer la junte militaire qui a pris le pouvoir le mois dernier. Le comité cherche à obtenir l'autorisation du président nigérian qui détient la présidence de la CEDEAO pour l'ouverture. Tout laisse à croire que la junte n'est pas totalement opposée aux négociations. Mercredi, les chefs de la junte ont rencontré les représentants de Tinubu dans la capitale de Niger, Niamey. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Allemagne, les faillites d'entreprises ont atteint un niveau record en juillet. Le nombre de faillites en juillet a considérablement augmenté en Allemagne, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral des statistiques. Selon le journal allemand Handelsblatt, les statistiques officielles fournies par l'Office fédéral allemand des statistiques démontrent que les cas de faillite d'entreprises ont considérablement augmenté en juillet en Allemagne. Le nombre des défaillances a augmenté de 23,8% par rapport au même mois l'année dernière. En outre, le nombre de grandes entreprises ayant annoncé leur faillite pendant le premier semestre 2023 a également augmenté de 12,4% par rapport aux années précédentes. La fermeture des entreprises n'est qu'un des indicateurs révélateurs du marasme économique en Allemagne. Le Fonds monétaire international FMI vient d'annoncer que l'Allemagne est la seule puissance économique mondiale dont le PIB devrait diminuer en 2023, alors que l'inflation y atteint 6,2%. Le lundi 7 août, l'Office fédéral allemand des statistiques annoncé que la production industrielle avait chuté de 1,5% en juin par rapport au mois de mai. En référence à un tel imbroglio économique, les économistes et experts allemands comparent le pays à l'homme malade de l'Europe. Si le gouvernement ne prend pas de mesures décisives, l'Allemagne devrait rester au bas du tableau de la croissance dans la zone euro, explique Ralf Slovin, économiste à la Commerzbank, cité par l'agence de presse Reuters. La guerre de l'Ukraine et la suspension de l'exportation du gaz russe vers l'Allemagne a fortement touché les activités industrielles et économiques de la première industrie européenne. Mais ce problème n'est pas la seule raison de la récession économique des Allemands. Celle-ci s'explique d'ailleurs par des difficultés structurelles, la grande dépendance du pays à l'égard des exportations, une faiblesse dans le domaine des investissements et une absence de la main-d'œuvre nécessaire. Certes, le gouvernement allemand tente de minimiser les répercussions négatives du soutien qu'il a apporté à Kiev face à la Russie en cherchant des solutions aidant au redressement économique. Le ministre de l'économie Robert Habeck, pariant dans ce sens sur des investissements internationaux privés pour redorer le blason de Berlin, par exemple. Une vingtaine d'entreprises prévoient des investissements importants en Allemagne pour un volume d'investissement total d'environ 80 milliards d'euros, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée mardi 8 août au Funk Media Group. Force est de constater que l'Allemagne n'est pas la seule chancellerie européenne à vivre de larges taux de faillite. En France, le nombre de défaillances de sociétés a bondi de 35% pendant le deuxième trimestre 2023 par rapport au même mois de l'année précédente. Sachez d'autre part que les prix de l'alimentation n'ont cessé de progresser en France depuis 2 ans. En juillet, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12,7% sur 1 an. Et sur 2 ans, ce chiffre est de 22%. En juillet, les prix à la consommation ont augmenté de 4,3% sur 1 an, contre 4,5% en juin. Les prix de l'alimentation ont, quant à eux, très fortement augmenté de 12,7%, mais moins qu'en juin. Selon le quotidien La Tribune, entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les étiquettes dans les rayons se sont envolées de 18,4% selon l'INSEE. Sur cette période de 18 mois, l'inflation des prix alimentaires a entraîné une baisse des dépenses des ménages. Un tiers des Français déclarent limiter leurs achats de nourriture et d'autres produits essentiels, selon une étude réalisée par le panéliste Nielsen, publiée fin juillet. Dans un article sur ce sujet, le site souverainiste français Front Populaire a attaqué le régime macronien pour la gestion du marché. Suivre les indicateurs INSEE de l'inflation depuis 2 ans, c'est être confronté à une rampe vertigineuse qui ne cesse de grimper après la vague inflationniste du secteur de l'énergie et mécaniquement venue celle de l'alimentation, a-t-il déploré. En moyenne, un Français dépense 4,2% de plus qu'en 2021. Cela traduit une baisse non pas des prix, mais de la consommation.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition et pour une nouvelle émission de débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 12 août en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, était à Pretoria en Afrique du Sud et a rencontré le président sud-africain. Les deux parties ont évoqué le renforcement des relations bilatérales, notamment en termes économiques. Et le président iranien, Ibrahim Raisi, est invité à participer au prochain sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août à Pretoria. Donc un autre signe des renforcements des relations de l'Iran Afrique du Sud. Nous allons évoquer ce sujet, l'importance de ce rapprochement, notamment dans la conjoncture actuelle, mais également une possibilité d'adhésion d'Iran au sein des BRICS avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
En visite à Pretoria pour assister à la 15e session de la Commission mixte de coopération Afrique du Sud-Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu jeudi dans l'après-midi avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. En allusion aux relations au beau fixe et en pleine croissance entre les deux pays, et la tenue réussie de la 15e réunion de la Commission mixte de coopération économique, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est félicité de la finalisation des accords qualifiés de constructifs dans différents secteurs. Il a déclaré que les deux parties avaient également préparé des documents à signer lors de la prochaine visite du président Ibrahim Raisi en Afrique du Sud. Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que le président iranien avait été invité en tant qu'invité spécial pour le sommet BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg. Le président Raïssi devrait participer à un sommet des BRICS après avoir reçu l'invitation du président sud-africain, selon les médias sud-africains. En allusion à la position stratégique de la République islamique d'Iran dans la région de l'Asie de l'Ouest et celle de l'Afrique du Sud sur le continent africain et aux capacités des deux pays dans divers domaines, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est félicité du développement de la coopération entre les deux pays. Le président sud-africain a pour sa part qualifié d'importante la visite en automne prochain de son homologue iranien en Afrique du Sud, soulignant que la présence du président iranien au sommet des BRICS revêt une importance particulière. Le monde accorde une attention toute particulière au sommet des BRICS, a-t-il indiqué, réaffirmant le plein soutien de son pays à l'adhésion de l'Iran aux BRICS. Pour rappel, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré à la presse lundi que l'Afrique du Sud accueillera le sommet très attendu des BRICS du 22 au 24 août, auquel participeront 67 dirigeants d'Afrique et du Sud global sur l'invitation de Cyril Ramaphosa.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons entendu ce reportage au sujet de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Pretoria. À présent, je suis en ligne. Nous sommes en ligne avec nos deux invités. Il s'agit de Jean-Maxime Corneille, analyste politique et journaliste. Également de Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique également. Je vous dis bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Jean-Maxime Corneille, si vous voulez bien, on commence avec vous. Donc, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre point de vue en ce qui concerne l'importance de cette rencontre, de cette visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Afrique du Sud, mais également les discussions qui ont été établies entre les deux parties concernant le renforcement des relations bilatérales, notamment dans le domaine économique entre les deux pays.
Alors, je pense qu'il y a évidemment un aspect préparatoire par rapport au sommet des BRICS qui va donc survenir bientôt en Afrique du Sud. Donc, il est une très bonne chose pour l'Iran, mais aussi pour l'Afrique du Sud, d'être à présent des partenaires privilégiés dans ce contexte. Je pense qu'il y a aussi un élément à garder en arrière-plan, mais je pense que je vais le développer au fur et à mesure. C'est la façon dont l'Afrique du Sud a été l'objet d'une lutte d'influence et en réalité a subi d'énormes déstabilisations depuis longtemps, notamment en lien avec l'État d'Israël qui s'est servi de l'Afrique du Sud pour des programmes d'armes biologiques. Donc ce sujet-là étant à garder en arrière-plan, il y a comme un rétablissement et ce que j'appelle en réalité un dualisme des mondialismes qui, je pense, va servir de trame à ce qu'il nous faut comprendre ici à l'occasion des BRICS, c'est-à-dire l'émergence d'un second mondialisme positif des BRICS en réponse au premier mondialisme artificiel, globalement des anglo-américano-israéliens, mais bien plus de la City et de Wall Street que des peuples anglo-américano, même israéliens. Donc ça serait mon point d'entrée, un dualisme des mondialismes et un placement globalement d'une nouvelle coopération, une mise en place de la nouvelle coopération au sein des BRICS, spécialement donc entre l'Iran et l'Afrique du Sud. Je pense que pour l'Iran, c'est une façon préparatoire de marquer son rôle absolument stratégique. Je l'ai plusieurs fois dit sur votre antenne, l'Iran est vraiment l'un des trois sommets du triangle stratégique, géostratégique Russie, Chine et Iran. L'Iran est vraiment une puissance régionale majeure, si ce n'est d'envergure mondiale, en tout cas centrale en Eurasie. Et il est une bonne chose donc, quelque part, de voir l'Iran porté au pinacle de cette façon-là, c'est-à-dire mis en évidence comme l'un des pivots géostratégiques les plus importants des BRICS, ce que réellement l'Iran est pour tout un feuilletage de raisons, aussi bien des raisons anciennes que récentes, aussi bien des raisons spirituelles que technologiques, et bien sûr des raisons militaires, puisque l'Iran a été un pivot absolument majeur, le pays le plus ciblé du Moyen-Orient de ces dernières années. Mmh. Voilà pour mon sujet d'ouverture, mon premier point.
Merci Jean-Maxime Corneille. Reste en ligne. Maître Develet, vous avez entendu l'analyse de Jean-Maxime Corneille. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord en ce qui concerne le rôle important que pourrait jouer l'Iran, en fait, dans ce triangle qu'a évoqué Jean-Maxime Corneille, mais également l'importance de l'essor des relations Iran-Afrique du Sud dans la conjoncture actuelle?
Oui, tout à fait. J'ajouterais qu'en tant que du triangle de l'Europe. Et dans le contexte des BRICS, qui, n'oublions pas, est une organisation avant tout économique, qui a peut-être vocation à devenir politique plus tard, nous le verrons, mais si on s'en tient au précédent de noté de charbon et d'acier qui est devenu l'Union européenne, avec tout l'état que c'est bien sûr sous-entendre, mais ça c'est un autre sujet, la dynamique qui porte sur d'abord des accords économiques qui deviennent des accords politiques, et effectivement le modèle qu'il faut garder à l'esprit. Et dans ce contexte-là, l'Iran est véritablement la puissance émergente en Asie occidentale, puissance au niveau de ses ressources naturelles, puissance au niveau de son emplacement stratégique, puissance militaire bien sûr, et surtout une puissance idéologique, ce qui rejoint effectivement ce que disait Jean-Maxime Cornet, dans le sens où là, sur le dossier de la Palestine, a toujours, si je puis dire, appuyé une position extrêmement de principe forte, à l'instar de l'Iran, et en cela, les deux pays ont une histoire commune sur ce dossier important qui renforce les liens d'autant plus. Sur un plan économique, les figures récentes montrent que la République islamique d'Iran a développé les trois derniers mois apparemment des liens économiques très poussés avec l'Afrique du Sud et le Ghana, ça c'est pour le continent africain, mais que la récente adhésion de la République au groupe de Shanghai de facto en fait probablement place l'Iran au sommet de la liste des amenés à rejoindre les BRICS, et Dieu sait que la liste est longue.
Merci Arnaud Develet, reste en ligne, merci pour vos explications. Alors Jean-Maxime Corneille, vous avez évoqué ce rôle important de l'Iran dans cette nouvelle géostratégie, mais à votre avis, est-ce que l'Iran et l'Afrique du Sud, mais également les autres pays des BRICS, notamment au prochain sommet qui se tient du 22 au 24 août à Pretoria, et l'Iran a été invité, pourront aussi évoquer en fait le commencement ou le début d'un détachement du dollar, la dédollarisation, les pays comme l'Iran, l'Afrique du Sud, même en Afrique, au sein de l'Afrique, la Centrafrique, ont déjà évoqué ce sujet, comme quoi la Russie aussi, des autres pays, dans leur échange économique, de faire pousser en fait le dollar et de commencer de nouvelles échanges sur la base de la dédollarisation.
Alors évidemment, c'est le sujet des sujets, la monnaie, c'est le sujet des sujets. Donnez-moi, rappelez-vous, la phrase de Meyer Amschel Rothschild: donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de qui fait ses lois. Mmh. C'est le sujet des sujets. Rapporté à l'actualité mondiale, ce n'est pas tant le dollar uniquement qu'il faut comprendre, c'est bien sûr le pétrodollar. Et en réalité, c'est une mise en accusation de l'intégralité du système économique mondialiste tel qu'il s'est développé initialement depuis la création de la Banque d'Angleterre en 1694, puis la création de la Fed anticonstitutionnelle aux États-Unis en 1913. Le mot d'Henry Ford également doit être gardé à l'esprit lorsqu'il disait que si les gens savaient comment créer, soi-disant, la monnaie, il y aurait une révolution demain matin. C'est-à-dire, de fait, je l'ai déjà dit sur votre antenne, William Cobbett résumait cela en la création de la famine au sein de l'abondance. Ce système économique pseudo-occidental, en réalité mondialiste, subversif, ce que j'appelle la finance internationaliste, puisque c'est vraiment la façon dont il faut l'appeler à partir des mémoires de David Rockefeller parlant de l'internationalisme, donc le mondialisme, c'est synonyme. Ici, cet internationalisme financier, il faut en comprendre la logique financière initiale, c'est-à-dire pourquoi il est internationaliste. C'est tout simplement parce que les États, normalement, sont les structures de protection des peuples, et que quand vous voulez ruiner les peuples, vous êtes obligé de devoir détruire les États. D'où la raison de cet internationalisme financier qui a toujours prospéré contre les États. Les États, les attributs souverains de l'État, à savoir le peuple, les frontières, la monnaie, l'attribut de la défense. Et je dis également qu'un État, c'est très important d'avoir à l'esprit ce sens de l'État. Vous allez voir, un État, en fait, doit protéger son peuple contre trois menaces. C'est ce qui n'est jamais compris. Et les théories marxistes ont fait énormément de mal aujourd'hui, par exemple sur les sites institutionnels français. Alors que la France a vraiment été à l'origine de la conception moderne de l'État, il n'y a aucun, sur aucun site français, l'État n'est défini. À aucun moment vous ne trouverez cette définition de l'État comme la structure de protection du peuple. Et partant de là, la potentialité du peuple de s'interroger quant à la conduite de son État lorsque l'État ne le protège plus, comme c'est par exemple le cas en France. Et en réalité, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est le fait d'avoir répandu au monde ce système mondialiste, donc créé avec la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire à chaque fois la prédation, la famine au sein de l'abondance, sur les peuples. C'est du néocolonialisme qui a commencé contre l'Occident avant de s'exercer contre le reste du monde. Il faut bien le comprendre. C'est ce mondialisme-là, c'est contre ce mondialisme-là, financier, internationaliste, que nous devons tous nous battre fondamentalement. Et donc cette issue, ce problème, ce sujet majeur de la monnaie et donc de la dédollarisation ne peut être appréhendé qu'en ayant en arrière-plan cette histoire-là et sa réactualisation avec le système de Bretton Woods et le caractère, on dirait, en droit léonin. Ça vient de Lyon, la part du lion qu'a eu le dollar, c'est-à-dire à la fois la monnaie des États-Unis, mais également la monnaie mondiale, la monnaie de base de Bretton Woods, sur laquelle toutes les monnaies devaient se régler. Or, il y a eu depuis lors énormément de trafic sur l'or opéré par les banques de Wall Street contre les États-Unis. En réalité, le dollar n'est pas réellement américain. Le dollar est une arme de Wall Street, y compris contre les États-Unis, dès leur origine. Et rappelez-vous, dernier point, après les chocs pétroliers, les accords avec la SAMA 74-75, derrière, il y avait bien sûr le trésor américain, mais les intérêts anglo-américano-israéliens, c'est-à-dire le fait d'avoir adossé le dollar, non plus à l'or, c'est-à-dire un viol des accords de Bretton Woods de 1971, mais de l'avoir adossé au pétrole. Donc c'est bien le pétrodollar qui est aujourd'hui en danger. Et les BRICS ne pourront s'en sortir face à cela, pour la réponse à votre question, qu'avec, en réalité, une méta-monnaie, une monnaie au-dessus des monnaies, parce que sinon, il y aura toujours ce problème que seuls les États-Unis pouvaient éluder, c'est-à-dire le problème que, même si on essaye de dédollariser, c'est la grande difficulté des BRICS aujourd'hui, il n'y a que 23% des transactions inter-BRICS qui ont été dédollarisées. Pourquoi ? Parce que la Russie ne veut pas des excédents en roupies, et on la comprend. Le problème étant que le mondialisme tel que nous en avons hérité par la City Wall Street, globalement, va devoir être remplacé par du bon sens économique et une relocalisation des productions, plutôt que ce système ayant fait de la Chine l'atelier du monde, fonctionnant à partir d'un dollar léonin, mais au final ne faisant que créer des asymétries de développement qui ne seront pas viables. Donc la grande solution que là vont proposer les BRICS, c'est donc la création d'une nouvelle monnaie extérieure aux monnaies nationales, mais il va y avoir un jeu de vases communicants qui va, je pense, aboutir à une sorte de relocalisation, en fait une fin de la mondialisation telle que nous l'avons connue, mais je pense que cela doit se passer sous la forme d'un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que la Chine ne pourra pas être éternellement l'atelier du monde, et que, tout, pour la bonne et simple raison, qu'en créant des esclaves d'un côté, des chômeurs de l'autre, cela créera des troubles partout. Et même la Chine a aujourd'hui des problèmes. J'ai fait un grand tour historique, j'en dis déjà beaucoup, je vous prie de m'excuser.
Non, merci infiniment pour vos explications, Jean-Maxime Cornet. Arnaud Develet, vous avez entendu l'analyse de Jean-Maxime Cornet en ce qui concerne ce détachement et cette dédollarisation au sein de non seulement des pays comme l'Iran, l'Afrique du Sud, mais aussi d'autres pays. Donc j'ai évoqué les noms, la Centrafrique, la Russie et d'autres pays. Donc quel est votre point de vue à ce sujet ?
Oui, bah écoutez, je m'inscris dans l'analyse globale de Jean-Maxime Corneille. Effectivement, on assiste à la fin d'un système basé sur les accords de Bretton Woods, qui est devenu maintenant un monstre hors de contrôle, hein, qui s'est emparé des États et essentiellement a donné la part belle aux intérêts purement financiers, avec une financiarisation des économies qui, comme M. Corneille l'a souligné, a plutôt engendré la misère des peuples au profit de quelques-uns. Et je pense que dans ce contexte-là, la dédollarisation n'est que l'un des symptômes de cette prise de conscience et de cette révolte à l'échelle globale. On voit aussi que dans le contexte récent, des événements récents en Afrique francophone, c'est aussi le franc CFA, bien sûr, qui est remis en cause, puisqu'il est fondée sur une asymétrie quant à ce qu'il permet de faire au niveau du développement des pays qui y sont assujettis. Et donc, c'est une remise à plat totale. Et le sommet des BRICS, même si je doute qu'il arrive à trouver une alternative concrète, va certainement être l'endroit où ces discussions vont être renouvelées. On a parlé de ce qu'on appelle des paniers de monnaie. On évoque aussi l'avènement, bien sûr, des monnaies digitales. Et en cela, je diffère de mon collègue quand il dit que les États protègent. Les États protègent, oui, mais il faut garder toujours un œil sur eux quand même, parce que la vocation d'un État, c'est avant tout l'autopréservation et le contrôle de ses populations. Et si vous avez des dirigeants qui sont effectivement animés par les intérêts bien compris de leur peuple, ça peut, dans l'absolu, ne pas poser de problème. Mais il suffit juste que la qualité ou alors que l'indépendance politique des dirigeants qui suivent soit remise en cause pour que ces instruments de contrôle sur la population puissent se révéler être en fait beaucoup plus négatifs qu'autre chose. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, de bouleversement des échanges, des termes qui vont conditionner ces échanges, les systèmes de l'architecture financière en elle-même, avec certainement un recentrage vers les pays qui ont quelque chose à vendre, à savoir des matières premières, qui ont des bases industrielles, qui sont capables de jouer sur l'exportation, de créer du concret, une économie concrète. Et on peut penser que cette fuite en avant digitale, technologique, est quelque part un peu le champ du cygne de ces pays qui ont décidé que un peu dans un écho de créer l'homme de demain, mais cette fois-ci au profit du transhumanisme, on pouvait privilégier cette espèce d'alchimie financière qui, au final, crée des océans de pauvreté pour des silos de prospérité que je dirais n'a que pour but que de renforcer des injustices sans que les opprimés puissent.
Merci Arnaud Develay, merci pour vos explications. Peut-être une dernière question à vous, Jean-Maxime Corneille. Donc nous avons évoqué ce entre guillemets détachement des pays de la dédollarisation du dollar, mais aussi de l'unilatéralisme américain. Il y a aussi un point assez intéressant, en fait, dans le sommet, le prochain sommet de BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août, c'était le fait que, par exemple, l'invitation d'Emmanuel Macron a été laissée sans réponse. Il n'a pas été invité à ce sommet. Est-ce que c'est aussi un autre signe, un signe de plus, en fait, de ce détachement des pays comme l'Afrique du Sud et autres, de l'impérialisme, tout simplement ?
Oui, non. Disons que là, c'est un épiphénomène dans la mesure où la France, vous savez, il est très facile pour tout le monde de taper sur la France, puisque la France, aujourd'hui, c'est vraiment le pays qui accumule toutes les bourdes en se défendant le moins possible de la plus mauvaise des façons. En Afrique, nous avons toujours été l'opérateur faible contre lequel les intérêts anglo-américano-israéliens s'en donnaient à cœur joie. On a vu récemment au sujet du Mali une obscure officine anti-France-Afrique basée à Londres qui s'en donnait à cœur joie. Tout ça, c'est de la plaisanterie. Par contre, Macron étant, il faut plutôt comprendre les choses à partir du fait, je l'ai déjà dit sur votre antenne, que Macron est en service commandé pour achever de détruire la crédibilité française dans le monde. Ça, c'est une évidence. Concernant le contexte qu'il faut davantage comprendre, je pense qu'il faut avoir en mémoire une sorte de match-retour de ce qui s'est passé en 1976. En 1976, nous avions eu le sommet de Colombo, qui était déjà une sorte de BRICS avant l'heure, notamment avec le Sri Lanka, l'Inde et le Guyana qui avaient, justement au nom des pays non alignés, qui avaient chargé l'ordre mondial unilatéral financiarisé. Je rejoins complètement mon compère Arnaud Develay sur l'idée que l'État, quand je parlais du sens de l'État tout à l'heure, l'État est un enjeu avant tout. C'est-à-dire que le détournement de l'État, nous le voyons tous les jours en France. C'est-à-dire qu'il y a la théorie du sens de l'État et il y a la réalité du fait que l'État, donc oui. Si l'État est aussi stratégique, l'État est facilement détournable. C'est ce que l'on voit en France. Mais donc, rappelez-vous qu'en 1976, les initiatives à l'époque proto-BRICS, qu'on pourrait appeler proto-BRICS, qui incluait notamment l'Afrique du Sud, en lien avec la France, parce que la France avait tenté, avec l'Afrique du Sud, premier producteur mondial d'or, de créer un système concurrent du dollar qui s'apprêtait à filer, qui s'apprêtait à être déconnecté de l'or. Les économistes français, Jacques Rueff notamment, chef économiste de Gaulle, le savait. Donc 1971, deux ans plus tard, le dollar a été déconnecté de l'or, mais à l'époque, il y avait des négociations entre la France et l'Afrique du Sud pour la mise en place d'un système concurrent. C'est bien la raison pour laquelle la France a été désinguée. L'initiative de Colombo a été détruite.
Merci.
Indira Gandhi et Bernard Raïké ont été évincés par des voies électorales. Et dernier point, l'Afrique du Sud, en 1976, avec la visite de Kissinger en Afrique du Sud, a connu des troubles graves. Donc voyez la continuité de ce phénomène historique. Je pense aujourd'hui, ça sera mon point de conclusion, qu'il y a une masse critique nouvelle qui est donc un espoir, cette fois, pour que les BRICS puissent réussir là où le sommet de Colombo avait échoué. Ce sera mon point final.
Merci infiniment. Alors Jean-Maxime Corneille, analyste politique et journaliste, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique, était avec nous pour cette émission. Vous pourriez revoir cette émission, également nos informations du jour de la rédaction de Presse TV français sur notre site french.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour ou bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Afrique économie. L'Afrique économie est une émission hebdomadaire dans laquelle nous essayons de passer en revue les développements et l'actualité économique sur le continent africain, que ce soit dans l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, ou l'Afrique de l'Ouest ou bien Afrique centrale. Donc reste avec nous. Le gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou, réunis au sein du consortium, la compagnie du Transguinéen, ont signé les accords fondateurs pour les infrastructures portuaires et ferroviaires du Transguinéen, marquant ainsi une étape décisive dans le développement très attendu du projet Simandou et un moment historique pour la Guinée. La signature de ces accords constitue une étape décisive établissant un cadre complet pour les infrastructures majeures du projet Simandou et mettant en évidence l'engagement indéfectible de toutes les parties impliquées pour sa réalisation. La mise en place des infrastructures facilitera l'exportation du minerai de fer et le transport de passagers et marchandises, stimulant l'économie locale grâce à la compagnie du Transguinéen, créant d'importantes opportunités pour la Guinée et l'Afrique de l'Ouest. Le succès de cette entreprise repose sur une coopération multilatérale. Chaque participant met à profit ses atouts pour assurer la prospérité collective et promouvoir le développement de la Guinée. Monsieur Djiba Diakité, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, a déclaré suite à cette signature cruciale pour le développement du projet Simandou, « Je salue les efforts considérables des différentes parties prenantes dans le projet. Ces accords fondateurs sont l'aboutissement de la détermination du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, dont la vision, le leadership et la volonté politique ont permis de relancer ce projet pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée. Le projet Simandou se décline en deux phases essentielles, la phase de construction et la phase d'exploitation. L'aspect multi-usage du chemin de fer doit permettre à concéder les bassins agricoles des centres urbains et de désenclaver l'ensemble du corridor sud-est et du sud-ouest du pays. L'Afrique du Sud et la Chine signent des accords commerciaux d'une valeur de 2,19 milliards de dollars. Les accords visent à stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers l'Empire du Milieu et les investissements chinois dans les plus industrialisés du continent. Des entreprises sud-africaines et chinoises ont signé jeudi 10 août des accords commerciaux d'une valeur de 2,19 milliards de dollars en marge d'une visite du ministre chinois du commerce Wang Wentao à Pretoria. Ces accords, qui ont été conclus lors d'une réunion du comité économique et commercial conjoint, visent à stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers la Chine et les investissements chinois dans le plus industrialisé du continent, selon un communiqué publié par le ministère sud-africain du commerce. En 2022, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et la Chine se sont élevés à 56,3 milliards de dollars. La branche commerciale est excédentaire en faveur du pays le plus industrialisé du continent. Anglo-American Platinum, Glencore, Sapi, LTD, Pioneer Fishing figurent parmi les entreprises basées en Afrique du Sud qui ont participé à cette réunion tenue en prélude à la visite d'État du président chinois Xi Jinping à Pretoria qui devrait avoir lieu d'ici la fin du mois en cours. La balance commerciale entre les deux pays est excédentaire en faveur du pays le plus industrialisé du continent. Entre 2020 et 2021, le taux d'électrification du Bénin est resté quasiment stable, passant de 41 à 42 %. Le potentiel en énergie renouvelable qui pourrait améliorer l'électrification du pays reste encore très inexploité. La maison de commerce japonaise Toyota Tsusho Corporation a annoncé le 10 août la conclusion d'un contrat avec la société béninoise de production d'électricité sous la tutelle du ministère de l'Énergie et de l'Eau pour la construction d'une centrale solaire de 25 MW dans la région de Pobe. Il s'agit du premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle réalisé par une entreprise japonaise en Afrique de l'Ouest. La société allemande RMT, filiale du groupe Eiffage, sera chargée des travaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, des travaux qui devraient être achevés en 2024. Ce projet soutiendra la stratégie du Bénin visant à installer 150 MW d'installations de production d'énergie solaire. D'ici 2026, le pays espère en effet réduire à moyen terme l'utilisation des centrales thermiques et devenir moins dépendant des importations d'électricité en provenance des pays voisins. Le Bénin est un des 5 plus gros importateurs en Afrique de véhicules d'occasion, un marché florissant sur le continent où des millions de personnes achètent des vieilles voitures européennes, parfois très polluantes. L'IFC et la MIGA finalisent leur investissement dans Safaricom Ethiopia. Safaricom ambitionne de s'imposer sur le marché télécom éthiopien. La société multiplie les initiatives pour accélérer sa croissance afin d'être compétitive face à l'opérateur historique Ethio-Telecom et au deuxième opérateur télécom privé annoncé. La Société financière internationale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements, toutes deux membres du groupe de la Banque mondiale, ont finalisé en début de semaine un accord visant à soutenir les activités de l'opérateur de télécommunications Safaricom Ethiopia. Ce dernier bénéficiera d'un financement de 257,4 millions USD et des garanties pour $1 milliard afin de couvrir les investissements de ses actionnaires sur les 10 prochaines années. Le soutien de la Banque mondiale avait été annoncé en juin dernier. Il devrait permettre d'accélérer la croissance de Safaricom Ethiopia, qui ambitionne de réitérer en Éthiopie le succès de Safaricom au Kenya. La société a lancé ses activités commerciales en octobre 2022 et poursuit le déploiement progressif de son réseau qui couvre déjà 22 villes du pays. De plus, elle a récemment acquis une licence d'exploitation pour le service d'argent mobile M-Pesa qui devrait être opérationnel en septembre prochain. Ces différentes initiatives devraient permettre à Safaricom Ethiopia d'être plus compétitive sur un marché télécom éthiopien en pleine libéralisation. Il est actuellement dominé par l'opérateur historique Ethio-Telecom qui comptait au 30 juin 2023 72 millions d'abonnés, dont 34,3 millions d'abonnés au service de paiement mobile Telebrir. De plus, un deuxième opérateur télécom privé devrait bientôt faire son entrée sur le marché. Avec l'arrivée de l'IFC en tant que partenaire financier, son expérience des opérations mondiales et le prestige de leur investissement apportent beaucoup d'éloges et de respect au conseil d'administration. L'université inter-État Congo-Cameroun fait appel à l'expertise indienne pour booster la connaissance ouverte. En 2019, l'université inter-État Congo-Cameroun s'était spécialisée dans la formation numérique en plus de l'agriculture et l'agroforesterie. Après 4 activités, l'institution ambitionne de former des ingénieurs qualifiés pour soutenir le tissu industriel des 2 pays. L'Université Inter-Etna Congo a signé mardi 8 août un accord de coopération avec Kale University de Vadebaram en Inde. L'accord vise à booster la formation numérique avec en vue la formation d'ingénieurs pour le compte des 2 États d'Afrique centrale. Il s'agit de faire émerger de manière efficace un pôle d'excellence technologique en Afrique centrale à travers une université technologique productrice d'ingénieurs entrepreneurs de l'économie numérique capable d'assurer la mission de capitaine de cette industrie. Une ambition partagée par les 2 pays dont la vision commune est de mettre sur pied un centre d'incubation et d'accompagnement des technologies et d'entreprises industrielles innovantes afin d'alimenter le secteur industriel en ressources humaines compétentes. Au Congo, comme au Cameroun, les systèmes universitaires sont en pleine mutation vers l'émergence d'universités plus compétitives axées sur l'entrepreneuriat. Une mutation qui intervient dans un contexte où le principal reproche fait au système éducatif est l'inadéquation entre les formations et le monde de l'emploi. Par cet accord, l'université indienne va aider l'université inter-État à réaliser ses ambitions de formation numérique. Elle va pour cela déployer son expertise au sein de l'école de génie numérique située dans la partie camerounaise. L'accord fait également intervenir la Jagora University Institute, un établissement basé dans la capitale camerounaise Yaoundé.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.